Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous poursuivons notre cycle sur les quelques grandes questions posées à la foi chrétienne, ou que pose la foi chrétienne. Et la question de ce soir, c'est donc la question de l'homme, la question, disons, anthropologique. On l'a formulée ainsi, que dit le christianisme du mystère de l'homme, hein, ou du mystère de la personne, puisque ce sera le mot clé. Vous savez que notre tradition occidentale s'enracine pour une large part dans la question que Socrate nous adresse à chacun, plutôt dans l'injonction qu'il nous adresse, connais-toi toi-même. Mais cette question de se connaître soi-même, au fond, se divise assez rapidement en deux questions. Il s'agit de savoir ce que je suis comme homme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme? Quelle est sa définition? Quelle est son essence? Qu'est-ce qui le caractérise et le distingue des animaux? Donc, ce que je suis, qu'est-ce que je suis comme homme? Et puis, plus profondément, qui je suis? C'est-à-dire, qui je suis comme personne unique? Au-delà de tous les traits que je partage avec le reste de l'humanité. Donc, qu'est-ce que je suis? Et plus profondément, qui je suis? Si on en reste un instant à la première question, qu'est-ce que je suis? C'est le travail des philosophes d'essayer d'analyser, de clarifier la question de l'homme, de proposer une définition. Par exemple, l'homme, c'est un animal qui pense, un animal raisonnable, hein, un animal doué de conscience. Ou bien l'homme, c'est un animal social. Et il est vrai que... On est dans une époque où la question se repose, au fond, de ce qu'est l'homme et est-ce qu'il a une essence. On sent bien que de grands sujets sociétaux actuellement sont posés qui tournent tous autour de la définition de l'humain. On sort d'une époque d'un certain nombre de siècles où un certain consensus existait sur la nature humaine. Croyants et non-croyants partageaient quelques évidences communes sur ce qu'était l'homme. Tel n'est plus le cas. On le voit par rapport à toutes les questions bioéthiques, questions du début de la vie, question de la fin de la vie, question de la différence sexuelle aussi, actuellement. Le consensus anthropologique donc a volé en éclats. Au moins ça a un avantage, c'est que ça nous oblige à nous reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui fonde sa dignité s'il en a une? Qu'est-ce qui le distingue de l'animal? Une différence de degré ou une différence de nature? Mais plus profondément, je le disais, donc une fois qu'on aura tenté de répondre à la question qu'est-ce que l'homme, il restera ouverte une question encore plus vertigineuse, c'est qu'est-ce que je suis, moi, hein, comme être personnel dans ma singularité. Et pour bien montrer à quel point cette question est vertigineuse, et cette question n'est plus seulement celle des philosophes, elle est celle des sagesses, celle des religions, elle est aussi celle des artistes, eh bien je voudrais vous lire un très court texte d'un romancier que j'aime beaucoup, d'un romancier un peu bizarre du 19e siècle, début du 20e siècle, qui s'appelle Léon Blois, une espèce de prophète de l'Ancien Testament, un peu perdu dans la modernité. Et voilà ce qu'il écrit. Je sais bien que je suis né à telle époque, en un lieu déterminé, et que j'ai un nom parmi les hommes. J'ai eu un père et une mère, j'ai eu des frères, des amis, des ennemis. Tout cela est indubitable, mais j'ignore le nom de mon âme. J'ignore d'où elle est venue, et par conséquent, je ne sais absolument pas qui je suis. Quand mon âme quittera mon corps, celui-ci tombera en poussière, et les chères créatures qui me survivront en pleurant, héritières de mon ignorance, ne pourront me désigner dans leurs prières que par le nom d'emprunt qui servit à me séparer quelque temps des autres mortels. Je trouve que c'est un très beau texte qui exprime, je dirais, ce vertige que chacun peut ressentir lorsqu'il contemple son propre abîme. Que nous soyons savants ou modestes ou humbles, tout homme se retournant sur son propre mystère, hein, peut avoir quelque peu le vertige, hein, justement d'un mystère, c'est-à-dire de quelque chose qui est inépuisable et qui ne saurait se réduire à une définition. Eh bien, ce que je vous propose de découvrir ce soir, c'est que peut-être la révélation biblique a quelque chose à nous dire du mystère de l'homme et du qu'est-ce que l'homme et du qui suis-je. Et peut-être, et c'était je crois tout le sens de l'exposé du frère Pascal David il y a deux séances, hein, sur les deux récits de création, peut-être que la Bible nous parle d'abord de l'homme avant de nous parler de Dieu. Il y aura donc quatre parties dans cet exposé. Une première partie que j'ai hésité à faire de peur que mon propos ne se disperse quelque peu, mais tout de même une première partie qui évoquera quelques anthropologies non chrétiennes. Je crois que c'est important parce que précisément aujourd'hui, avec la rencontre des cultures finalement, on est dans une atmosphère culturelle où des anthropologies très différentes se mêlent et parfois se brouillent. Donc je parlerai de quelques exemples d'anthropologie étrangère, disons, à l'univers biblique et chrétien. Dans une deuxième partie, j'aborderai l'anthropologie biblique, l'héritage biblique, et en particulier l'anthropologie que l'on appelle tripartite, l'homme est corps, âme, esprit, chose que nous détaillerons un peu. Dans une troisième partie, l'invention chrétienne, il faut bien l'appeler comme ça, l'invention chrétienne de la notion de personne. Et dans une dernière partie, la question de l'image, qu'entend la foi biblique quand elle dit que l'homme est image de Dieu, et en particulier, qu'apporte le dogme chrétien de la Trinité comme éclairage sur la personne humaine. En première partie, donc, quelques exemples d'anthropologie non chrétienne, j'en détaillerai un tout petit peu. J'en survolerai plutôt quatre. Une première anthropologie qui est assez commune dans les discours contemporains, je l'appellerais une anthropologie, disons, matérialiste. Elle est souvent présente dans le discours, en particulier dans le monde des biologistes. Cette anthropologie souvent se réclame des théories de l'évolution pour essayer de dire que les facultés les plus hautes de l'homme, hein, son intelligence, sa volonté, sa conscience, ne sont finalement que de la complexification de la matière. Et que par le jeu des mutations, des adaptations, du plus élémentaire, hein, des molécules et des cellules, finit par advenir le plus perfectionné, mais qu'il n'y a qu'une différence de degré entre les facultés, disons, spirituelles de l'homme et le matériel biologique qui le compose. Pour un matérialiste, la pensée est d'une certaine façon réduite à ses conditions physico-chimiques, hein, telles que le cerveau les réalise. Et c'est d'ailleurs là que porte la critique philosophique au matérialisme, c'est-à-dire que le matérialisme confond le phénomène pensée, hein, le contenu de la pensée, hein, l'accès au sens, au langage abstrait, avec les conditions matérielles de sa réalisation. C'est sûr que si on me démolit le crâne, je peux plus penser. Mais est-ce que la pensée, c'est le crâne? Est-ce que la pensée, c'est le cerveau, hein? Bon. En tout cas, c'est une anthropologie qui à court et dont il faut avoir conscience. Alors, c'est une anthropologie de type, disons, naturaliste, hein, c'est-à-dire que l'homme est réduit à une nature qui est une nature physique, hein, biologique, biochimique. Alors, le second type d'anthropologie que je vais évoquer est diamétralement opposé à celle-ci, hein. Il s'agit au contraire d'anthropologie qui nie toute donnée naturelle, et que j'appellerais des anthropologies, disons, de la déconstruction. Jean-Paul Sartre nous disait, puisqu'il est en quelque sorte un des un des penseurs sources de l'existentialisme et ensuite des auteurs de la déconstruction, Jean-Paul Sartre disait que la nature de l'homme, c'est qu'il n'a pas de nature. Et qu'au fond, l'homme n'est qu'une liberté, en quelque sorte, auto-fondée, hein, et qui se détermine par les projets qu'elle se donne arbitrairement. L'homme n'a pas de nature, il n'est pas défini par une essence définitive. Tout au fond est construction, tout au fond est culture. Et donc l'homme doit prendre conscience qu'il est déterminé par des constructions et le plus souvent des constructions sociales. Alors vous avez là tous les thèmes des grands déconstructeurs que sont Foucault, Derrida, et qui sont pour le coup très présents dans une certaine culture, et les penseurs de gender theory sont dans cet héritage-là. C'est-à-dire qu'au fond, ce que nous appelons nature humaine, lorsque nous l'examinons de près, n'est que le résultat de constructions sociales. Par exemple, la nature féminine, une nature masculine, ce sont essentiellement le résultat d'une oppression, d'une domination. Je vous laisse deviner de qui par qui. De même, le primat de l'hétérosexualité n'est que le reflet conventionnel d'une domination des uns par les autres. Et une fois qu'on a montré le caractère construit de tout ce que l'on tenait pour des faits de nature, eh bien en même temps, on montre la possibilité de les déconstruire, hein, comme un Lego qu'on démonte, et puis de les reconstruire autrement. Et donc, le projet, dans ce cas-là, consistera à ce que l'homme, ayant pris conscience des déterminismes sociaux, puisse reconstruire à volonté sa propre identité, sexuelle et autre. Hein. Voilà. Alors, à ce sujet-là, puisque c'est tout de même pas le sujet du jour, donc je voulais en profiter pour vous faire la publicité d'un ouvrage fort intéressant qui vient de sortir, donc qui est un petit ouvrage collectif sur le gender et qui s'appelle « L'éducation à l'âge du gender, construire ou déconstruire l'homme ». Alors je me permets d'en parler parce que il y a parmi les auteurs Jean-Noël Dumont, Xavier Lacroix, Frédéric Roulet, à côté de gens très connus comme Thibaut Collin ou Rémi Brague. Donc des auteurs pertinents, solides. C'est sur le mode de la conférence, donc c'est un style qui est assez agréable à lire. Et donc si vous voulez le consulter à la sortie, n'hésitez pas, je le mets là. Voilà pour les anthropologies de la déconstruction. Évidemment tout cela est très sommaire, j'en ai conscience. On pourrait maintenant passer à d'autres types d'anthropologie, en particulier celles qui nous viennent de l'Orient. Hein, des grandes religions orientales que sont les différentes religions de l'Inde, pour éviter le mot hindouisme qui n'est pas un mot juste, ou bien les différentes formes du bouddhisme. Alors on sait que dans ces grandes traditions indiennes, qui d'ailleurs ont un certain attrait pour l'homme occidental, et il serait intéressant de se poser la question pourquoi, on sait que dans ces grandes traditions, l'idée de personne individuelle, je suis une personne individuelle, vous êtes une autre personne individuelle. Cette idée-là est une sorte d'idole, une sorte d'illusion du langage, et que l'individu a pour ultime vocation de se dissoudre dans le divin, dans le tout qui lui est impersonnel. Alors, si on détaille un tout petit peu plus, on a cette idée que tout d'abord le corps, hein, qui n'est pas du tout une dimension constitutive de la personne. Ce qui serait plus constitutif de la personne, ce serait plutôt l'âme, mais l'âme peut transmigrer d'un corps à un autre, le corps demeurant pour elle une sorte de prison dont elle doit se libérer. Et d'ailleurs, la libération définitive, c'est lorsque l'âme non seulement se détache de toute forme corporelle, mais finit par elle-même se détacher d'elle-même, c'est-à-dire finalement se résoudre dans l'âme du monde, hein, le brahman dans l'hindouisme. L'atman, c'est justement l'âme personnelle, hein, Et la grande équation de cette anthropologie indienne, c'est de dire que mon âme personnelle, Atman, hein, doit devenir Brahman, c'est-à-dire doit se perdre, hein, ou se trouver, ou que sais-je, en tout cas se devenir indistinct dans l'absolu impersonnel. Dans le bouddhisme, l'anthropologie est encore plus radicale, hein. L'âme personnelle est véritablement l'illusion même qui est à la source et à la racine de toute forme de souffrance. Je souffre, j'ai envie de dire je souffre, donc je suis. Si je souffre, c'est parce que il y a un je, hein, cramponné à sa propre illusion, hein, qui nourrit des désirs, et par ces désirs est la source de sa propre souffrance. Et donc dans le bouddhisme, il s'agit progressivement d'anéantir le désir, hein, de se soustraire à toute prise du désir pour finalement atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est vraiment l'extinction du moi dans le divin impersonnel. Alors, c'est pourquoi on pourrait dire, bon, on est quand même un petit peu loin du sujet. Oui, mais quand même, ce type d'anthropologie exerce une certaine séduction sur l'homme occidental, et on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que l'homme occidental est tellement fatigué de son identité personnelle, quoi ? Enfin voilà, je ne fais que lancer la question. Mais, bien entendu, que le bouddhisme à l'occidental est souvent très éloigné du bouddhisme. Mais, puisqu'il arrive à conjuguer une espèce de forme de narcissisme individualiste avec ces grandes anthropologies qui, au contraire, sont des anthropologies qui nous disent « le moi est une illusion ». Alors maintenant, je vais arriver à des formes anthropologiques qui, elles, sont beaucoup plus proches, beaucoup plus intérieures à notre culture, disons, d'occidentaux, puisqu'elles viennent de la Grèce et que, d'une certaine façon, le christianisme les a plus ou moins digérées, plus ou moins assumées. Je dis bien plus ou moins. Et l'héritage grec, qui n'est pas uniforme, hein, est dominé tout de même par ces deux grands penseurs que sont Platon et Aristote. Et alors, vous savez, on a cette idée en général que pour Platon, finalement, l'être, la véritable réalité de la personne, de l'individu, c'est son âme, hein, et que son corps n'est qu'une enveloppe passagère, plus ou moins douloureuse. Hein. Et de fait, Platon analyse avec beaucoup d'acuité, hein, le fait que par l'âme, j'atteins aux essences universelles, hein, c'est-à-dire j'atteins à ce qui est éternel, à ce qui est immuable, à ce qui est parfait, tandis que par mon corps, je ne fais qu'éprouver des sensations qui sont passagères, variables, trompeuses. Et donc, le corps me place dans une forme, là encore, d'illusion, d'impermanence. Tandis que l'âme est ce qui me relie à l'intelligible, au bien, au monde des idées. Donc, c'est vrai que chez Platon, il y a une forme de dépréciation du corps. Le corps est une prison pour l'âme. Le corps est principe de corruption, d'ailleurs, il disparaît. C'est facile. Alors, en même temps, les spécialistes de Platon nous disent Platon évolue en réalité dans sa philosophie. Dans le dernier Platon, on sent une volonté, en quelque sorte, de renouer ce lien entre le corps et l'âme. Mais tout de même, la personne humaine chez Platon se ramasse, se réduit à la fine pointe de l'âme, hein, qu'il appelle l'esprit, ou qu'on peut appeler l'esprit, le nous. Hein. Donc on est quand même dans une anthropologie qui accorde peu à la chair, à la condition charnelle et corporelle. Alors là où les choses changent, c'est avec Aristote, hein, qui va repenser l'anthropologie de son maître, hein, et qui va proposer une autre anthropologie qui accorde toute sa place au corps. Aristote va nous dire, je schématise, je dis les choses en formule assez simple, Aristote va nous dire, l'homme n'est pas son âme, et l'homme n'est pas son corps non plus. L'homme, la personne humaine, enfin l'individu humain plutôt, est l'unité du corps et de l'âme. L'unité d'un corps et de l'âme. Et il faut bien dire d'un corps et de son âme, parce que chaque âme est faite pour un corps. Il n'y a pas d'interchangeabilité, l'âme ne se promène pas d'un corps à un autre. Chez Aristote, il y a un crédit donné à l'expérience sensible. Parce qu'Aristote constate que l'homme connaît à travers le sensible. Il passe par le sensible, par la sensibilité, comme le petit enfant qui touche tout pour découvrir le monde. Et avant d'accéder aux idées les plus générales, le petit enfant a des sensations, a des expériences. Il passe par l'expérience sensible. Eh bien, le corps, dit Aristote, est étroitement lié à l'âme, et à vrai dire, il en est même inséparable jusqu'à la mort. En réalité, qu'est-ce que l'âme ? Elle est le principe d'organisation interne du corps. C'est-à-dire, l'âme traverse tout le corps, elle est, en quelque sorte, sa structure la plus intérieure. Pour prendre un exemple, une analogie, pardon, si je regarde la matière, j'ai du sable par exemple, j'ai quelque chose de très informe. Mais si je regarde cela avec une loupe ou avec un microscope, je vois des cristaux. C'est-à-dire je vois des formes mathématiques extrêmement fines, extrêmement régulières, et je m'aperçois que ce qui m'apparaissait informe en réalité est toujours informé. Il y a toujours une forme intérieure. Et cette forme intérieure, si vous la transportez dans le monde du vivant, c'est ce que Aristote appelle l'âme. L'âme est la forme du corps, la forme d'un corps vivant. Pour dire les choses, pour que ça parle peut-être plus, peut-être ça, les choses semblent un petit peu abstraites, mais l'idée est que si vous pensez à un corps sans âme, c'est-à-dire sans principe d'animation, sans principe de vie, ça n'est plus un corps. D'ailleurs, toutes les langues utilisent un autre mot, cadavre, autre quelque chose comme ça, dépouille. Bon, ça n'est plus un corps. Et de fait, même scientifiquement parlant, c'est parfaitement juste, puisqu'on sait bien que le cadavre est un processus de décomposition. Il n'a plus du tout son unité vitale. D'accord ? Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une personne vivante, c'est un corps animé, structuré, habité, pénétré de part en part par l'âme. Et il n'existe pas de corps sans âme, de même que une âme doit avoir son corps pour s'accomplir, pour accomplir ce pourquoi elle est faite. Alors on pourrait se tourner vers la biogénétique moderne, que je connais d'ailleurs assez mal, mais il est intéressant de voir qu'Aristote est un penseur qui intéresse les scientifiques modernes. Si vous pensez par exemple à l'ADN, pourquoi ne pas voir dans l'ADN qui traverse toutes nos cellules ce principe de structure, d'intelligibilité. Et de fait, nos cellules peuvent mourir, se transformer, l'information, la forme reste, l'ADN reste, et c'est toujours le même ADN, voyez. Et un corps vivant, c'est cette unité, donc une personne vivante, c'est cette unité du corps et de cette information qu'Aristote appelle l'âme. Alors, en quoi ça va intéresser l'anthropologie chrétienne, si cette expression d'ailleurs a un sens, eh bien, au sens où est pensé que la personne humaine est son corps et son âme. Je suis mon corps et mon âme. Je suis l'unité d'un corps et d'une âme. Et dans le christianisme, le point de départ, on peut dire, de la foi chrétienne, c'est quand même la résurrection d'un corps animé, quoi. C'est le relèvement d'un corps animé. Le chrétien ne croit pas en l'éternité de l'âme. Il croit en la résurrection d'un corps animé, ce qui est beaucoup plus audacieux, anthropologiquement parlant. Platon croyait en l'éternité de l'âme. Les chrétiens croient en le relèvement d'un corps animé. La résurrection des corps, dit le credo. Voilà. Alors j'en ai fini pour cette première partie, évidemment un petit peu disparate, puisque j'ai passé en revue trop rapidement plusieurs types d'anthropologie, et maintenant, ça va être du coup plus unifié, je l'espère, je vais aborder, dans une deuxième partie, l'héritage biblique, ce que l'on peut appeler une anthropologie biblique, telle qu'on la découvre dans la Genèse, essentiellement, et puis telle qu'elle traverse tout le Premier Testament, par exemple les psaumes ou d'autres textes. Alors la première précaution à observer, c'est de se dire que la Bible n'est pas un traité de philosophie. Par bien des égards, elle est le contraire d'un traité de philosophie. La philosophie, elle est analytique, c'est-à-dire elle distingue des concepts, elle sépare corps, âme. La Bible, elle est toujours synthétique, elle est toujours unitaire. Donc quand la Bible va parler des facultés de l'homme, en fait, elle parle toujours de l'homme pris dans sa totalité. La philosophie est conceptuelle, donc abstraite, c'est pas un défaut, hein, c'est son mode d'expression. La Bible est toujours existentielle. L'homme dont elle nous parle est toujours l'homme vivant. L'homme pris dans ses angoisses, dans sa peur, dans sa recherche de Dieu, dans son désir. Voilà. De sorte que si on parle d'une anthropologie biblique, il faut vraiment s'entendre, il ne s'agit pas d'un exposé philosophique de ce que la Bible entend dire de la personne humaine. Il s'agit plutôt d'une sorte d'anthropologie implicite. L'homme de la Bible, à quoi ressemble-t-il ? Alors, par exemple, on va donner trois grandes perspectives sur l'humain. Corps, âme, esprit. On va les détailler dans quelques instants. Mais d'emblée, je vous dis, le défaut de cette tripartition, c'est que ça n'est pas une partition. C'est qu'en réalité, ce sont trois, si vous voulez, trois regards croisés sur le même homme tout entier, pris tout entier. Un exemple, lorsque le psalmiste dit « Mon âme a soif du Dieu vivant », il ne dit pas « Une partie de moi-même aspire vers Dieu ». Quand il dit « Mon âme », il dit « Toute ma personne ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on parle, quand des chrétiens parlent, par exemple, du corps du Christ, même dans les sacrements, par exemple, le corps du Christ, il ne s'agit pas de la viande du Christ. Il s'agit de toute sa personne, corps, âme, esprit. Dans l'Eucharistie, je ne reçois pas une partie de la vie du Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, on est dans une anthropologie qui est toujours unitaire, hein, qui est synthétique. Voilà. Il faut bien l'avoir dans l'esprit. Alors, cela dit, cette anthropologie unitaire, hein, elle va déployer trois grandes perspectives, trois regards, si vous voulez, sur la personne humaine que l'on peut appeler, donc avec les mots hébreux qui correspondent en français, corps, âme, esprit. Pour vous donner un des versets où cette tripartition en quelque sorte est évoquée d'une manière plus ou moins implicite, ce serait Genèse 2, verset 7. C'est un des textes qu'on a lus il y a deux séances. Hein. C'est le second récit de création. Vous vous rappelez, premier récit, création en six jours, c'est pas celui-là. Deuxième récit, où la création d'Adam, le terreux, est posée tout de suite. Bon, je vous relis le verset. « Alors, le Seigneur Dieu modela l'Adam. » C'est le mot, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là. Veut dire terre, glaise. Donc, alors Dieu modela l'Adam avec la glaise du sol. Bon, il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Donc ça, c'est ce qui vient de Dieu, d'accord ? Et l'homme devint une âme vivante. L'Adam, corps, si vous voulez. Bon, on expliquera, hein, le corps. L'haleine de vie qui vient de Dieu, c'est roi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et l'action de l'esprit dans la matière, dans la glaise, dans la terre, suscite une âme vivante. Et donc, vous voyez, vous avez cette anthropologie tripartite, hein, qui est prise par les deux bouts. L'homme est à la fois de la terre, de poussière d'étoiles, comme dirait Hubert Reeves. Il est à la fois souffle de Dieu, esprit. Et l'action de l'esprit dans la poussière d'étoiles ou dans la glaise, cela donne une âme humaine, une âme vivante. Donc voilà ces trois dimensions de la personne, plutôt que trois parties, que je vais un petit peu détailler maintenant. Commençons donc par la dimension corporelle, donc en hébreu bazar. cette dimension corporelle, donc, ne doit pas être comprise comme la matérialité seulement, hein, mais elle renvoie à, disons, la présence sensible, ma présence concrète dans un monde qui est un monde évolutif, hein, un monde qui passe. Hein. Donc, mon appartenance au monde, hein, la manière dont je rentre en relation avec autrui, hein, mais en même temps, ma vulnérabilité, puisque mon appartenance par ce corps, c'est aussi la possibilité que j'ai d'être atteint par ce monde et par la maladie et par la vieillesse et par la mort. Donc le corps n'est pas du tout une réalité négative comme chez Platon, il est une réalité, on pourrait dire, sensible et vulnérable, mais qui est une réalité infiniment précieuse, puisque c'est par lui que je rencontre autrui. Voilà, donc la dimension du corps. Donc vous voyez, le corps c'est quoi? C'est pas un morceau de l'homme, c'est l'homme tout entier, mais l'homme vu dans sa dimension, disons, d'appartenance à un monde fluctuant, dans sa dimension vulnérable. J'arrive ensuite à la deuxième grande perspective, l'âme, alors d'un mot hébreu qui se dit nefesh et qui signifie la gorge. La Bible, je le disais un peu tout à l'heure, mais la Bible connaît pas l'abstraction. Elle connaît que des mots concrets. Donc l'âme, c'est la gorge. Voilà. Hein, parce que la gorge, c'est là où passe le souffle. Hein. Bon. Voilà. Comment comprendre l'âme dans la Bible, sachant qu'une fois encore, elle désigne la personne tout entière, mais cette fois-ci, sous l'angle, disons, de l'intériorité vivante. Au fond, on n'est pas très loin de l'âme des philosophes. De l'âme des philosophes grecs. L'âme humaine, c'est une intériorité vivante, ce sont des facultés naturelles, et en particulier des facultés psychologiques. D'ailleurs, en grec, âme va se traduire par psyché. Donc des facultés psychologiques, des impressions, des émotions, des sentiments, mais aussi des facultés rationnelles. L'homme est capable d'intelligence, de mémoire, de volonté. Voilà, donc c'est toutes les dimensions de l'intériorité de la personne humaine. Et l'âme, c'est aussi la vie du corps. Mais alors, parce qu'on pourrait dire, bah, c'est une anthropologie intéressante, elle est unitaire, elle divise pas l'homme en rondelles, et puis elle associe assez fortement le corps et l'âme. Hein, bon, qu'ajouter de plus ? Or, évidemment, la Bible, en quelque sorte, voit l'homme aussi autrement. Il voit l'homme sous l'angle de sa vie spirituelle, hein, de son enracinement en Dieu. Et c'est ce que l'on appelle Roua, l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que cette dimension plus intérieure, plus mystérieuse aussi? Eh bien, l'esprit, c'est l'homme vu dans son rapport à sa source, à la source de son être. On pourrait dire, l'esprit, c'est l'homme qui s'ouvre à Dieu, ou qui vit ouvert à Dieu. Quand saint Paul, par exemple, dit l'homme spirituel en nous, ça signifie l'homme qui vit sous la motion de Dieu, hein, sous la motion de l'Esprit-Saint. Voilà, saint Augustin a des formules pour dire cette anthropologie-là. Il dit, alors je cite pas de façon précise en l'occurrence, il dit l'âme, c'est la vie naturelle du corps, un peu comme disent les philosophes, et l'esprit est la vie surnaturelle de l'âme. L'esprit, c'est l'âme de l'âme, si vous voulez. C'est le principe intérieur qui fait vivre l'âme, même si je n'en ai pas forcément conscience, ou même si la source est obstruée. Alors, pour aider un tout petit peu à visualiser cette anthropologie-là, j'ai fait ce petit schéma qui n'engage que moi, tripartite, hein, que vous avez sous les yeux. Donc, ce schéma concentrique, corps, âme, esprit. J'ai un tout petit peu métissé l'apport biblique tripartite avec ce que nous dit la philosophie sur l'âme, hein, sur les facultés de l'âme. Donc, vous voyez que dans l'âme, je distingue deux dimensions. L'âme psychologique. Bon, les sensations, les émotions, les sentiments, le caractère. Au fond, toute chose dont je ne suis pas forcément à l'origine. Hein. Et puis, l'intériorité, disons rationnelle ou réflexive, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Pourquoi cette subdivision dans l'âme? Parce qu'il me semble que cela marque mieux l'irruption d'un phénomène humain qui s'appelle la liberté. Hein, on pourrait dire où commence la liberté? Elle commence à partir du moment où un homme ressaisit sa propre expérience dans sa mémoire, par son intelligence et par sa volonté. Voilà. Bien entendu, cette liberté va ensuite s'approprier, en quelque sorte, l'ensemble des dimensions humaines. Je ne dis pas que le corps est en dehors de la liberté. Mais c'est par les facultés les plus intérieures que l'homme conquiert son autonomie et se fait l'auteur de sa propre vie. Voilà. Alors, cela dit, on peut poser une petite question, mais cher monsieur, vous parlez de la troisième dimension spirituelle, et comment, à part par une sorte d'acte de foi, comment voulez-vous la faire pressentir à un athée? Ce qui est une très bonne question. Est-ce que par hasard, on irait jusqu'à dire qu'un athée n'a pas de vie spirituelle? Bon, certainement pas. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, athée ou pas, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. En tout cas, du point de vue de sa structure anthropologique, il a une vie spirituelle, si vous voulez. Alors, plus ou moins vivante, on n'est pas là pour la juger. Hein. Mais comment faire percevoir à quelqu'un qu'il y a quelque chose de plus profond que notre intelligence, que notre volonté, que notre conscience? Alors, j'essaie de répondre à cette question, mais forcément, il faut le faire en termes suggestifs et non pas en termes démonstratifs. C'est plutôt de l'ordre de la perception intuitive. Je le dis à ma façon, mais il me semble que lorsque nous rentrons en nous-mêmes, que lorsqu'on fait une retraite, par exemple, vous savez, quand on fait une retraite, c'est d'abord le corps qui s'arrache. Alors, on fait 200 kilomètres pour couper les bruits, les activités, bon, on se retrouve dans un lieu paisible, bon, très bien. Et puis ensuite, c'est l'âme psychologique qui prend le dessus, alors il y a tous les bruits intérieurs. Alors c'est encore plus terrible qu'en ville, parce qu'à l'intérieur, ça bouge, il y a des angoisses, j'ai oublié de faire ci, et puis je suis inquiet, puis je pense à un tel, bon. Et la psychologie, petit à petit, va s'apaiser. Et alors, on descend progressivement dans cette intériorité, et puis, on arrive en quelque sorte à saisir sa propre pensée, presque à l'état pur, à l'état natif. Hein, et c'est un peu l'expérience d'un Descartes hein, dans ses méditations métaphysiques, hein, le je qui se découvre lui-même. Hein, bon, seulement ce je, une chose est tout de même bien sûre, c'est que c'est pas moi qui me le suis donné. Je suis donné à moi-même. Je ne me suis pas fait tout seul. Ce je qui est bien moi, qui est bien le fond de ma personne, en même temps vient d'un autre, disons plutôt vient d'autre part, pour pas aller trop vite, vient d'autre part. Et au fond, dans le secret de l'intériorité, il me semble que je peux percevoir comme la trace d'une source, comme si ce je qui est la source de mon être tire sa vie d'une autre source. C'est-à-dire que je me reçois moi-même d'autre part. Je ne dis pas encore d'un autre, je dis d'autre part. Il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans. Hein, mais athée ou pas, et athée jusqu'à l'os, si ça vous fait plaisir, on est forcé tout de même de reconnaître que nous nous recevons nous-mêmes d'un ailleurs, d'un point d'interrogation. Et je pense que quelqu'un qui va jusqu'à ce point de contemplation est sur la voie de la vie spirituelle. Peut-être qu'il n'ira pas plus loin. L'attitude croyante ou le cheminement du croyant consiste à dire, et je fais un pas de plus, mais si ce je qui est si profond en moi est un je libre et personnel et fait pour aimer, puisque ce sera une des clés de l'anthropologie, fait pour aimer, peut-il venir d'une source qui ne soit pas éminemment personnelle, infiniment plus personnelle d'ailleurs que moi, et pleinement aimante. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive à cette intuition-là, on est, je crois, sur la voie de la voie croyante, hein, la voie de la foi. Mais, en tout cas, je voulais surtout insister sur le fait que la dimension spirituelle peut-être, alors ce sera peut-être un sujet de débat entre nous, mais peut être dite en des termes non religieux, peut être dit en des termes anthropologiques, même si c'est sur le mode de la suggestion. En tout cas, cette dimension spirituelle, on peut dire qu'elle est d'une certaine façon un dynamisme intérieur de liberté, et même, je vais jusqu'à dire, de don, puisque je me découvre donné à moi-même. Alors, je peux être révolté par ça. Je peux même me suicider en me disant, c'est pas normal, j'ai pas décidé de vivre. Ou faire un procès à mes parents. Mais, qui d'ailleurs, ils sont pour pas grand-chose. Mais, je peux constater qu'il y a un don. Hein, et que je suis un don. Alors, cette anthropologie, unitaire, hein, l'homme pris toujours dans son unité vivante et en même temps tridimensionnel, hein, qui nous vient de la Bible et de la Genèse, elle va être reprise par saint Paul. Je vais très vite, c'est simplement pour vous dire que saint Paul va reprendre ces catégories-là et va les retranscrire dans un langage grec. Parce que saint Paul, c'est déjà le juif qui fait l'articulation avec la culture grecque qu'il connaît parfaitement. Voilà, pour ne prendre qu'un exemple, hein, saint Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens que le Dieu de la paix vous sanctifie totalement et que votre être entier, et alors vous allez voir dans quel ordre il le dit, c'est assez curieux, votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Il dit en sens inverse, du plus profond, voilà. Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres textes, saint Paul, parlant par exemple de la résurrection des corps, la résurrection, va employer des expressions un peu surprenantes, telles que celle-ci, première lettre aux Corinthiens, la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Et il insiste, s'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps psychique, qu'est-ce que c'est? C'est, on pourrait dire, c'est le corps pas encore tellement spirituel, même si en réalité il a vocation à devenir totalement, envahi par la grâce. Et le corps spirituel, c'est le corps précisément qui vit sous l'action de l'Esprit Saint. Et donc en particulier, le corps ressuscité du Christ n'est pas, se donne à voir et à pas voir d'ailleurs si on ne le voit pas dans un regard de foi comme un corps spirituel. Voilà. Corps, âme, esprit, fin de la deuxième partie. Ça va? Bon. Alors cette anthropologie biblique qui a sa richesse, qui a sa pertinence, hein, une de ses richesses, moi, me semble-t-il, c'est qu'elle donne toute sa place au corps, hein, toute sa place au corps, puisque elle va jusqu'à penser la résurrection des corps. Hein, eh bien, elle va être en quelque sorte, je ne sais pas si on peut dire complétée ou couronnée par la notion chrétienne, celle-ci, de personne. Et de personnes à l'image du Christ. J'aime bien citer, on peut citer évidemment le premier verset, le premier texte de la création dans la Genèse, hein, que tout le monde connaît. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et alors, une anthropologie biblique et chrétienne est obligée de passer par ce verset, et d'essayer tant bien que mal de le comprendre. Ça fait 2 millénaires. Qu'on s'échine à le comprendre et à l'interpréter. Mais j'aime bien citer un auteur pas biblique du tout, qui est un auteur russe dissident célèbre des années 70, qui s'appelait Alexandre Zinoviev, personnage d'ailleurs un peu atypique, donc qu'on avait rencontré à Lyon il y a déjà quelques années. Zinoviev, dans son langage bien à lui, dit la chose suivante. Quand l'homme a inventé le Dieu chrétien, il s'est inventé lui-même. Alors, c'est une formulation qui est intéressante, c'est une formulation qui a un petit côté athée, hein, l'homme invente Dieu, etc. Sauf que là, en inventant la conception chrétienne de Dieu, sans s'en rendre compte, il s'invente lui-même comme homme. Ce qui est tout à fait juste, et ça va être tout à fait historiquement, c'est tout à fait juste. En tout cas, l'idée de personne humaine vient non pas d'une réflexion sur l'individu humain, mais vient d'une réflexion sur la personne divine, sur les personnes divines. Voilà. Alors, dans cette partie, un peu brièvement, je réfléchis à l'idée d'image. Que nous dit la Genèse lorsqu'elle nous parle, la Genèse et la révélation chrétienne, lorsqu'elle nous parle de l'homme image de Dieu? La première chose qu'elle nous dit est un peu déroutante, c'est que Dieu est celui que personne n'a jamais vu. Il est d'une certaine façon l'infini du mystère, l'infini inconnaissable, l'inépuisable, celui dont on ne peut jamais faire le tour. Eh bien, si la personne humaine est à l'image de ce Dieu inépuisable et inconnaissable, on peut dire que la personne humaine, dans son mystère le plus profond, est inconnaissable. Alors, comment comprendre cette incompréhensibilité? La Genèse nous dit, rappelez-vous les récits de création, la Genèse nous dit de façon très explicite que l'homme, déjà, par rapport au reste du monde créé, par rapport au reste de la nature, cosmos, l'homme transcende complètement le cosmos. Il est de la terre, il est Adam, et en même temps, par son esprit, il dépasse complètement ce cosmos. D'ailleurs, le cosmos lui est confié. Et les étoiles sont désacralisées, et toutes les forces occultes, mystérieuses sont désacralisées, et seul l'homme est à l'image de Dieu. Seul l'homme est à l'image du Dieu qui n'a pas d'image. Il faut y penser, c'est un peu surprenant. Dieu n'a pas d'image, et l'homme pourtant est image de Dieu. Et justement, l'interdit des images dans le décalogue, premier commandement, tu ne feras pas d'image, etc., de ton Dieu. On croit toujours que c'est pour préserver la grandeur de Dieu. Mais c'est pas vraiment ça. C'est surtout pour préserver l'homme de l'idolâtrie, c'est-à-dire pour rappeler à l'homme que lui est la seule image de Dieu. Et que lorsque l'homme se courbe devant une image faite de main d'homme, il perd sa liberté. Il devient idolâtre, il perd sa liberté. Voilà, et donc, l'interdit de l'image, c'est d'abord la préservation de la liberté de l'homme et de sa dignité. Rien n'est digne de la prosternation humaine. Sûrement pas les étoiles, sûrement pas le roi, sûrement pas les forces obscures de la sexualité ou de la mort. Rien n'est digne de la prosternation de Dieu. Dieu seul est Dieu. Rien n'est sacré. Dieu seul est Dieu. Donc l'homme est inconnaissable parce que il est, d'ailleurs, il n'est pas réductible au cosmos, à une nature matérielle, etc. Mais mieux encore, l'homme, comme dit le grand Pascal, qui sera notre guide, l'homme passe infiniment l'homme. L'homme passe, ça veut dire l'homme dépasse infiniment l'homme. C'est-à-dire qu'aucune mesure inscrite en l'homme peut mesurer l'homme. Je peux bien essayer de le définir, de l'enfermer dans des sociologies, des psychologies, des je ne sais quoi. L'homme est toujours au-delà de toutes ces mesures. Par la profondeur de son intériorité, par ce que nous avons appelé l'esprit, qui est une sorte d'abîme ouvert sur l'infini. Voilà, donc l'homme image de Dieu, l'homme image d'un mystère inépuisable, l'homme d'une certaine façon inconnaissable. Cependant, le texte de la Genèse nous dit aussi autre chose. Il nous dit aussi, hélas, que l'image a été obscurcie, voilée. On appelle cela le péché. Quoi qu'il en soit, l'homme qui est à l'image de Dieu fondamentalement, présente une image abîmée, une image voilée. Et quel est le sens, et ce sera l'objet d'une autre soirée, mais quel est le sens de ce péché ou de cette blessure, hein? C'est précisément, le texte de la Genèse nous l'a dit, hein? C'est précisément lorsque l'homme refuse cette source. Tout lui est donné par Dieu. D'ailleurs, il est même fait à l'image de Dieu. Mais voilà que le don, l'homme le refuse. Je ne veux pas être débiteur. Je ne veux pas que tu me donnes. Je veux conquérir. Le Satan qui s'y connaît lui dit, vous serez comme des dieux. Alors qu'il l'est déjà. C'est étrange qu'on ait dit, il est à l'image de Dieu, et qu'ensuite le Satan promette qu'ils sont déjà comme des dieux. C'est bizarre. Mais quelle est la différence? D'un côté, il accueillait le don comme un don. De l'autre, il le conquiert comme un dû. Et l'attitude spirituelle est radicalement différente. Et au fond, le péché, ça n'est pas s'approprier ce que nous n'avons pas, c'est plutôt conquérir ce qui nous est donné. Je fais une petite parenthèse, que c'est un fil rouge de toute la Bible, ça. Tout le monde connaît la fameuse parabole du fils prodigue. On l'a mise dans toutes les commentaires possibles. Mais avez-vous remarqué que le premier fils réclame sa part d'héritage? Alors, réclamer sa part d'héritage à un père vivant, c'est un peu le vouloir mort. Donc, c'est déjà pas très sympa. Mais enfin, il ne réclame que sa part. Or, à la fin du texte, que dit le père à l'autre fils, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. C'est pas une part, c'est tout. Dieu ne donne pas une part, il donne tout. Et l'homme, dans sa volonté de ne pas recevoir le don, préfère conquérir la moitié du don, une petite partie du don. Voyez, voilà la logique de ce que l'on peut appeler le péché et de ce qui vient blesser la ressemblance. Quand l'homme se détourne de Dieu, la ressemblance s'obscurcit. L'image est voilée. L'image est voilée et l'homme devient non seulement mystérieux de la limpidité du mystère de Dieu, en quelque sorte, de cette image du mystère de Dieu, mais l'homme devient obscur, ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. Et Pascal nous dit, nous souhaitons la vérité et nous ne trouvons en nous qu'incertitude. Nous cherchons le bonheur et ne trouvons en nous que misère et que mort. L'image est voilée. Hein, et l'homme va vivre son intériorité, ce qui suis-je, sur le mode de l'angoisse, sur le mode de la contradiction, de la tension. Donc ça, c'est toute l'expérience du péché, finalement. L'expérience du péché qui est de se sentir en désunion avec soi-même, en désaccord avec les autres, en désaccord avec Dieu. Mais c'est le sujet d'une prochaine conférence, donc j'insiste pas trop pour indiquer que la révélation chrétienne, c'est pas du tout ça. La révélation chrétienne, c'est d'ailleurs tout cela se révèle à la lumière du salut, c'est-à-dire que la révélation chrétienne, c'est que le Christ vient nous dire, nous permettre de retrouver notre véritable visage. Parce que l'image parfaite, la ressemblance parfaite, c'est lui qui la porte. Et donc ce fameux mystère humain à la fois inépuisable, mais à la fois obscurci, il faut bien tenir les deux, le Christ vient l'éclairer hein, d'une lumière nouvelle, puisqu'il vient il vient restaurer en nous l'image et la ressemblance. Vous allez me dire, tout ça est peut-être un peu compliqué ou abstrait, je vais le dire en termes très brutaux. Si tout ce que je dis est vrai, ça veut dire que pour se connaître soi-même, il faut pas regarder son miroir, il faut regarder le Christ. Et si je veux connaître ce que je suis en profondeur comme personne humaine, il faut que je regarde le Christ, il faut que je regarde la vraie image. En effet, le Christ est sans péché, et c'est bien pour cela qu'il est pleinement humain. Bien sûr, nous disons, oh, le péché c'est humain. Mais non, le péché c'est inhumain. Le péché c'est au contraire ce qui nous déshumanise, ce qui blesse l'humanité en nous. seul le Christ est pleinement humain. Et donc, si je veux comprendre qu'est-ce que l'homme, je dois me tourner vers Ecce Homo, hein, vers celui qui est vraiment l'homme. Voici l'homme, dit Pilate. Hein, et le texte, évidemment, le met en perspective. Pilate se rend absolument pas compte de ce qu'il raconte. Mais Ecce Homo, ça veut dire voici l'homme. Si vous voulez voir un homme, c'est lui. Regardez plus votre miroir. Bon. Non seulement le Christ dévoile le mystère humain, le révèle, mais en plus, si je puis dire, il restaure en nous, hein, notre humanité, ce que l'on appelle le salut. Ce que l'on appelle le salut. C'est-à-dire que la déshumanisation du péché, il nous permet de nous en affranchir, il nous en lave. Et c'est tout le sens du baptême, vous le savez, je ne lirai pas le texte de saint Paul que j'avais prévu pour pas que ça dure trop longtemps, mais saint Paul nous dit, quand on est baptisé, on est plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. De sorte que s'accomplisse cette libération. Le baptême est une libération, c'est une libération d'ailleurs, les baptisés prennent le manteau blanc des esclaves romains affranchis. Voilà. De sorte que saint Irénée et quelques pères de l'Église des premiers siècles résument tout le mystère chrétien par cette parole plutôt dense. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire que non seulement l'homme retrouve toute sa dignité d'homme, pleinement humain, comme le Christ est pleinement humain, mais qu'il devienne en quelque sorte un autre Christ, qu'il devienne véritablement divinisé, entièrement spiritualisé. Voilà. Et j'aborde, si vous n'êtes pas épuisé, la quatrième partie. La troisième, j'aurais dû l'intituler « Image du Christ », la notion chrétienne de personne à l'image du Christ. Et la dernière partie, je l'appellerai « La notion chrétienne de personne à l'image du Dieu Trinité ». Et donc j'en arrive enfin à cette curieuse invention, ce terme de personne. D'ailleurs, il a fallu ressortir un vieux mot peu usité et lui donner un sens nouveau. C'est ce qu'ont fait les pères de l'Église. En effet, je ne vous referai pas l'histoire des premiers conciles, mais il a fallu environ 3 siècles pour arriver à une formulation un tout petit peu équilibrée, pour dire la spécificité du Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est un Dieu unitrinité, c'est-à-dire qu'il est le Dieu unique d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est la source de toutes choses, Dieu personnel, Dieu d'alliance, mais, et ça c'est la grande nouveauté chrétienne, il est aussi un Dieu relation. Il est un Dieu relation. Le concile de Constantinople, donc en 381, dit « Dieu est une nature en 3 personnes ». Et ces 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, ne se distinguent entre elles que par le mode de relation qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Voilà, 3 personnes qui sont 3 relations. Le Dieu chrétien est un Dieu relationnel. Trinitaire, ça veut dire relationnel, communionniel, je ne sais pas si ça existe. Un Dieu qui est en lui-même communion. Ce qui le distingue très profondément de la représentation musulmane de Dieu. Le monothéisme musulman est un monothéisme arithmétique, c'est le 1 mathématique en quelque sorte. Le monothéisme chrétien est un monothéisme de communion. C'est l'unité qui est mise en valeur. Alors, évidemment, je simplifie au maximum ces petits rappels de théologie trinitaire pour me poser la question, finalement, si l'homme est à l'image de Dieu, il est donc quelque part à l'image de ce Dieu trinitaire. Et les pères de l'Église, qui sont des gens très savants, ont certainement dû cogiter là-dessus. Donc, pour les pères de l'Église, en quoi l'homme est-il image de Dieu? Bon, alors pas de chance, Enfin, pas de chance. Pour un certain nombre, on a surtout développé l'idée que l'homme était image de Dieu par ses facultés spirituelles. Hein? Donc, par une partie de lui-même. Et pour ne prendre qu'un exemple, saint Augustin voyait dans les trois facultés, ce que j'ai appelé dans mon petit schéma faculté rationnelle de la personne, donc mémoire, intelligence et volonté, saint Augustin voyait dans ces trois facultés l'image de la Trinité en l'homme, l'empreinte de la Trinité en l'homme. Et alors je donne la parole à une femme, Catherine de Sienne, qui est très marquée par la pensée de saint Augustin, et qui dit, c'est sur le mode de la prière, vous allez voir, c'est superbe. Ô déité, déité ineffable, ô bonté souveraine, qui par pur amour nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Tu n'as pas dit en créant l'homme, sois fait, comme pour les autres créatures, mais tu as dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Ô amour ineffable, toute la Trinité a concouru à sa création, et la forme de la Trinité a été imprimée dans les puissances de son âme. Ah. Tu lui as donné la mémoire pour qu'il reçoive ta forme, ô Père éternel. Ah oui, la mémoire, c'est au fond le fond de la personnalité humaine, c'est ce qui assure la continuité de ma pensée. Donc en quelque sorte, la mémoire, c'est un peu la source, hein, de mon être réflexif. Et donc, c'est l'image du Père. Alors elle ajoute, par cette intelligence, par notre intelligence, deuxième faculté, nous participons à la sagesse de ton Fils unique. Pourquoi ? Parce que le Fils, c'est le Verbe, hein, c'est le Verbe de Dieu. Et donc l'intelligence en l'homme est à l'image du Fils, hein, de la pensée du Verbe. Puis elle ajoute, tu nous as donné la volonté, la douce clémence du Saint-Esprit. Cette volonté se lève pleine de ton amour à l'image du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. La volonté, c'est ce qui est fait pour aimer. Et donc, c'est à l'image de l'Esprit qui est ce courant d'amour entre le Père et le Fils. Alors, vous voyez, ce sont des analogies. Elles sont, suggestives. Mais il faudrait pas trop les bloquer, les raidir, hein, parce que elles ne sont justement que des analogies. Mais heureusement, d'autres pères et des plus anciens, puisque notre cher saint Irénée local s'est élevé contre cette réduction, disons, un peu trop spirituelle. Et saint Irénée dit carrément non, l'homme est à l'image de Dieu à travers toutes les dimensions de son corps. Il n'est pas question de penser que, par exemple, de son être, corps, âme, esprit. Pourquoi que l'esprit ? Non, le corps, l'âme, tout, d'une certaine façon, est à l'image de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'est à l'image de Dieu, hein, sinon quelque chose qui traverse le corps, l'âme et l'esprit, et qui est à l'image d'un Dieu relation. Saint Irénée l'a pas dit comme ça, il l'a peut-être même pas dit du tout, mais ce que l'on peut penser, c'est que au fond, c'est ce qui est à l'image du Dieu Trinité en l'homme, c'est l'homme en tant que structure relationnelle. C'est la dimension relationnelle de l'homme. Puisque Dieu est un Dieu relation, l'homme dans son corps est marqué par la relation, la disposition à la relation. Dans son âme, tout autant, hein, par mon âme, par mes facultés, je cherche toujours à rencontrer l'autre, à rencontrer le monde. Et par son esprit, l'homme est éminemment en relation, puisque l'esprit, c'est la relation entre un homme et son Dieu. Et donc là, il y a une piste qui est beaucoup plus riche, à mon avis, beaucoup plus prometteuse, qui consiste à penser que ce qui est le plus profondément à l'image du Dieu relation, c'est l'homme en tant que structure relationnelle. Et du coup, on va pouvoir revenir une dernière fois au texte de la Genèse, et cette fois-ci je vais le relire, le verset un peu plus lentement. Dieu dit, Dieu Elohim, singulier, Dieu dit, faisons, pluriel, l'homme, singulier, à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. le texte traduit bien le, l'hébreu qui, bizarrement, nous disent les spécialistes dont je ne suis pas, hésite pour Dieu entre un singulier et un pluriel, avec cette espèce de conciliabule du faison, et pour l'homme, très nettement, hésite entre un singulier et un pluriel. Dieu créa la dame, et Ish et Isha, il les créa, homme et femme, mâle et femelle, il les créa. Comme pour dire, et bien sûr là ce sont des interprétations qui sont forcément à nuancer, à discuter, hein, mais comme pour nous dire que, au fond, ce qui est le plus à l'image de Dieu en l'homme, c'est pas l'individu isolé, c'est l'individu relationnel. Alors, le couple, évidemment, dans ce passage de la Genèse. Le couple en relation dans, dans, la, dans sa distinction sexuelle qui représente toujours cette, à la fois cette insuffisance de l'individu, cette limitation de l'individu, on en a parlé, et aussi cette disposition qu'a l'individu de se réaliser dans une relation. Jean-Paul II le dit, alors parce que oui, un de ceux qui ont le plus creusé cette voie, c'est évidemment Jean-Paul II, avec sa théologie notamment de la sexualité, comme image en quelque sorte des relations divines, hein, ce qui est d'ailleurs surprenant. Hein, que, dans ses écrits de Carol Wojtyla, Jean-Paul II déploie toute une anthropologie de la relation, et en particulier de la relation sexuelle, à l'image de ce Dieu relation. Alors Jean-Paul II nous dit, l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, individuelle si vous voulez, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. L'homme devient image de Dieu moins au moment de la solitude qu'au moment de la communion. Voilà. En réalité, l'homme et la femme sont surtout image de Dieu en tant que personne appelée à la communion, puisque l'homme et la femme sont des êtres incarnés dont le corps exprime leur personne. Cette communion des personnes inclut la dimension de la communion corporelle par la sexualité. Voilà. Mais évidemment que la relation, les relations humaines ne se réduisent pas à, au couple, hein, toute relation familiale, amicale, l'amitié, hein, associative, peut s'inspirer de ce modèle de la Trinité. Pour dire jusqu'à quel point ça peut être pris au sérieux, hein, un grand penseur catholique du catholicisme social, Marc Sagnier, hein, du début du XXe siècle, disait tranquillement « notre programme social, c'est la Trinité ». Faut oser quand même, mais c'est bien. Parce que pourquoi c'est bien ? Parce que la Trinité, c'est quand même le modèle tout à fait unique d'une relation sans fusion, d'une communion sans fusion, et d'une relation sans séparation. Et voyez comment nous, dans nos relations, que ce soit conjugale, amicale ou quoi que ce soit, nous sommes tantôt du côté de la fusion, tantôt du côté de la séparation. Mais quel mal nous avons à trouver ce point d'équilibre, hein, d'une relation qui soit communion sans fusion et distinction des personnes sans séparation. Le père Caffarel, lyonnais, qui, vous savez, qui a fondé les équipes Notre-Dame, donc spiritualité des couples, a cette belle phrase, dans l'amour on est un parce que l'amour nous unit, mais on est deux parce que l'amour nous respecte, et on est trois parce que l'amour nous dépasse. Vous voyez, il y a cette logique de l'amour d'unifier dans l'unité, de respecter dans la dualité, et d'être fécond, de s'auto-dépasser dans la Trinité. Voilà, donc vous voyez, il y aurait toute une exploration à faire de ce modèle trinitaire comme pouvant inspirer les relations entre les hommes. Et je conclue, rassurez-vous, j'étais parti de la tradition philosophique qui nous avait enjoint avec Socrate, connais-toi toi-même, et la révélation chrétienne nous dit autre chose. Elle nous dit plutôt, connais celui qui t'a aimé, connais celui qui t'a créé, connais celui qui t'a sauvé, et tu sauras qui tu es. Accueillir cette anthropologie chrétienne, je crois que c'est accueillir, s'il fallait tout résumer, je dirais que c'est accueillir une anthropologie du don. Dire que Dieu est Trinité, c'est dire que Dieu est en lui-même donation. Dynamisme de donation, Dieu se donne. Dieu ne fait que se donner. Et les personnes trinitaires ne sont que des dons. Et lorsque l'homme découvre en lui, dans son intériorité spirituelle, qu'il est lui-même un don confié par on ne sait quel donateur, il peut rentrer dans cette dynamique de don. Et l'homme qui est dans la gratitude du don, c'est quoi la foi? C'est pas avoir des idées chrétiennes. La foi, c'est, enfin, je crois, enfin, il me semble, spirituellement parlant, la foi, c'est la gratitude du don, c'est-à-dire, je te remercie, mon Dieu, de m'avoir confié à moi-même. Et l'homme qui est dans cette gratitude du don peut à son tour se donner. Et peut-être qu'accomplir une existence, accomplir une liberté dans l'amour, puisque le don c'est aussi cela, c'est entrer donc dans cette dynamique du don. Donc, regarde le visage du Christ, tu sauras qui tu es. Merci.